Jacqueline Saveria Huré, comment vous est venue l'idée de raconter cette histoire de Marie,
oui,
mais de la raconter par Marie?
Voilà, c'est très important en effet. Au fond, j'avais toujours envie d'écrire la vie d'une personne, personnage historique, naturellement. Et puis, c'était à ce moment-là, en 1978, on me l'a suggéré d'ailleurs, tout d'un coup, je dis, mais pourquoi est-ce que je n'écrirais pas la vie de la Vierge Marie? C'est évidemment une entreprise un peu audacieuse, mais cette audace, c'est après coup que je me suis rendu compte que c'était audacieux. Sur le moment, je suis partie en avant sans savoir où j'allais. Alors je crois que c'est très difficile d'ailleurs de savoir pourquoi on écrit ceci ou cela. Moi, évidemment, j'ai toujours été très concernée par les questions religieuses, ça c'est évident. Je suis élevée catholique par une mère qui sortait du Sacré-Cœur de Jésus. Je suis même née à 20 km de Lourdes, c'est tout dire. Oui. J'avais donc de la Vierge Marie, si vous voulez, une image très dogmatique, très issue de l'éducation religieuse du 19e siècle. En fait, c'était ça. Et puis, ce qui m'a beaucoup déterminé et changé ma façon de voir les choses, c'est un séjour que nous avons fait en Israël avec mon mari, bien entendu, un séjour de 5-6 ans, qui a vraiment transformé ma vue de tous ces personnages qu'on nous avait donnés en exemple, à aimer, à prier, etc.
Oui. Mais le défi, c'est que ça soit Marie qui se raconte. Je
oui,
pense que c'est ça le vrai
important.
Défi.
C'est très important et c'est capital, je vous dirais. Parce que c'est, de Marie, c'est un personnage, évidemment, qui est un petit peu construit, si vous voulez, par la suite, par les pères de l'Église, par la dévotion des fidèles, etc. Et il n'y a pas de source véritablement la concernant, si vous, en dehors du catéchèse, la catéchèse, c'est-à-dire cette personne, mère du Christ, et tous les évangélistes, au fond, se sont penchés sur Marie dans la mesure où ils voulaient témoigner de la résurrection de Jésus, que Jésus était vraiment le Messie d'Israël.
Elle n'a jamais pris la parole, au fond, on ne l'a jamais entendue, et tout à coup, en lisant votre livre, on l'entend se raconter.
Ce qui est drôle, c'est qu'après avoir écrit ce livre, je suis tombée sur un texte du cardinal de Bérulle qui date entre le 16e et le 17e siècle, qui parle justement du silence de Marie. C'est un silence théologique. Le silence de Marie est interprété comme une grâce, ça fait partie de son personnage. Je crois que si j'avais eu ce texte avant, ça ne m'aurait pas empêché d'écrire ce livre. Parce que, oui, enfin, en réalité, je crois que l'optique a beaucoup changé, n'est-ce pas, entre le XVIIe siècle et celui-ci. Maintenant, nous sommes un peu curieux de tout ce qui est historique et de la vérité des personnages de l'histoire. Nous voulons, par exemple, ce qui se passe pour les vedettes à l'heure actuelle, n'est-ce pas? On veut tout savoir des vedettes, comment elles vivent, comment elles mangent, comment elles dorment, etc. Marie, dans son genre, c'est une vedette.
Oui, bien sûr. Et puis, c'est une femme qui raconte. Alors, voilà toute la différence. Voilà pourquoi l'image de Marie nous apparaît si nouvelle. Parce que Marie est une femme qui existe, qui a des désirs, qui a des besoins.
Mais oui, à mon avis, c'était une nécessité. Sur le moment, ça ne m'est pas apparu comme une nécessité. Je vous dis, je suis partie là, en avant, oui. Donc qu'est-ce que je vais dire? Enfin, mais il y a quelque chose, peut-être le sentiment de justice. Je voulais rendre justice à cette femme. Et c'était l'année de la femme, justement, en 78. C'était l'année, on voulait promouvoir l'idée de la femme, le personnage de la femme. Et justement, à propos de Marie, je dis, voilà une femme qui n'a rien dit, dont on a escamoté la vie terrestre, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est comme ça que je me suis lancée.
Oui, mais vous avez quand même pris beaucoup de liberté par rapport à l'histoire et beaucoup de liberté par rapport au mythe.
Vous trouvez?
Ben, j'ai l'impression, parce que, enfin, vous racontez une histoire, et très bien d'ailleurs.
Non, mais alors je crois que je me suis approchée...
Ça pourrait être un roman, ça pourrait être un roman.
Je crois que je suis approchée de la vérité. Enfin, naturellement, moi j'en suis convaincue. Et j'ai fait du vraisemblable. Parce qu'en réalité, on me dit, mais comment écrire sur Marie? Il n'y a aucune source. C'est vrai et faux. C'est vrai parce que à partir de la résurrection, à partir du moment où Marie a vécu avec les apôtres, probablement, on ne sait plus très bien où elle est morte. En particulier, c'est la question qu'on vous pose toujours, où elle est morte, à quoi je réponds, mais dans mon livre, elle n'est pas morte puisqu'elle parle, n'est-ce pas? Alors, est-elle morte à Éphèse, est-elle morte à Jérusalem? On ne sait pas. Ça, c'est vrai. Mais il est très facile de s'imaginer qu'est-ce que c'était que la vie d'une femme à l'époque, la vie d'une enfant à l'époque. Il suffit de se référer aux documents historiques, oui, aux lieux géographiques, à situation politique de l'époque, à la psychologie juive, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup changé, oui. N'est-ce pas? Oui. Et c'est pas difficile d'imaginer qu'était la vie d'une femme et d'une jeune fille à l'époque.
Oui. D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle dit on dit de moi que je suis une mère juive, et c'est vrai, avec tout ce que cette image de la mère juive possessive d'ailleurs. Et justement, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est son rapport à Jésus. Quand on compare à son rapport avec ses autres enfants. Au fond, les autres enfants sont jaloux de l'amour très particulier qu'elle éprouve pour Jésus, sans savoir qu'il est Dieu au début.
Mais écoutez, parce que ça, c'est autre chose. Je vais vous dire, cette histoire des enfants, enfin, on passe un peu du coq à l'âne, si on peut dire, mais moi, j'ai pris la thèse catholique, bien entendu, pour ne choquer personne. Après tout, qui sait? Personne ne sait. On dit, n'est-ce pas, que le mot frère en hébreu et en araméen... désigne des personnes du même sang et que par conséquent les frères appelés frères dans l'évangile étaient des cousins de Jésus, pourquoi pas. De toute manière, elle était entourée d'enfants. Alors j'ai donc pris la thèse catholique parce que je trouve que comme il y a beaucoup de catholiques qui vont lire ce livre, il n'y a pas de raison que je fasse Marie ayant eu d'autres enfants. Donc c'est ça.
Qu'est-ce qu'on disait, mais, là, oui, ce que je vous disais, c'est l'amour très particulier qu'elle éprouve pour Jésus.
Alors évidemment, il faut dire que le premier-né en Israël, le premier-né a un rôle tout particulier. Et si je l'appelle premier-né, c'est parce que c'est un titre qu'il conserve. Il est le premier-né. Et les femmes de l'époque étaient tributaires, d'ailleurs elles avaient un statut juridique extrêmement, celui de l'esclave, ça n'avait pas grand-chose à dire. Elles étaient tributaires du père, naturellement, ensuite du mari et ensuite du fils aîné, si ça se trouvait. Donc Marie a toujours été l'esclave de quelqu'un.
Oui. Mais on peut penser que Jésus n'est pas un bon fils dans la mesure où il n'est pas très présent à sa mère, où il part.
Ben oui, mais parce que les rôles des femmes à l'époque étaient tout à fait, de se dire, complètement à l'écart de tout ce qui était dans la famille du domaine masculin. Et on ne sait pas,
mais Marie en souffre.
Les gens religieux s'imaginent, n'est-ce pas, que Jésus et Marie se regardaient dans le blanc des yeux toute leur vie. Pas du tout. Elle vaquait à ses affaires, elle se faisait un souci terrible comme toutes les mères de famille. Elle avait bien des raisons pour le faire. Et Jésus s'occupait des siennes. Je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment une familiarité exceptionnelle entre Marie et Jésus. Ce serait plutôt le contraire. D'ailleurs, les textes de l'Évangile le disent. À tout moment, il rappelle à sa mère qu'il a autre chose à faire.
Et que, oui, d'ailleurs,
il faut se rendre compte ce qu'était la loi. C'était un étau fantastique à l'époque. Et les femmes, les gens nés sous la loi obéissaient à tout un mode de vie, un mode qui était dicté absolument, qui était rentré dans les mœurs, ce qui faisait que on était obligé, on était pris là-dedans, dans ce carcan.
Alors quand Jésus est parle, c'est sa période publique. Il dit, qui sont ma mère, vous d'ailleurs on retrouve la phrase de l'Évangile, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, celui-là est ma mère, mon frère, ma sœur. Alors, Marie qui parle dit, cette réplique, quand on me la rapporta, me fit mal. Elle mesurait le prix énorme que nous demandait le Très-Haut. On m'avait cité de Jésus des phrases encore plus terribles. Celui qui aime son père, sa mère, sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Mon fils ignorait-il qu'ici-bas, personne ne le chérirait autant que moi. Sa mère, qui l'avait pourtant écarté de son passage en disant, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? On sent toute la difficulté de Marie.
Ça a été certainement son drame, comme sont les drames de mères de famille dont les enfants s'échappent. N'est-ce pas? Je pense qu'elle aurait souhaité, comme toutes les mères, avoir un fils qui se marie et avoir des petits-enfants. C'est certain, malgré cette annonce, parce que justement au début du livre, j'ai mis en exergue un mot de Maurice Clavel, n'est-ce pas? Oui. Même le surnaturel, on l'oublie, il est fugitif comme le rêve. Oui. Il faut se rendre compte que même si on a des révélations, vous en avez peut-être eu, moi j'en ai pas eu spécialement, mais enfin, des intuitions, on l'oublie dans le courant de la vie, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour Marie? Marie, elle a eu, n'est-ce pas? Elle vivait, il faut bien se rendre compte qu'elle vivait dans une époque où on attendait la fin des temps ou le Messie, parce que c'était, on en avait ras-le-bol de l'occupation romaine. Le peuple juif se croyait privilégié, c'est pas, il était l'objet d'une alliance avec l'Éternel. L'Éternel avait promis monts et merveilles. Or, ces monts et merveilles se traduisaient depuis des siècles par des épreuves successives. Et au moment de l'occupation romaine, il semble qu'il y avait eu vraiment l'insupportable avait atteint un tel degré que on ne pensait qu'à la fin des temps, qu'à l'arrivée du Messie, etc. Marie est élevée dans une famille juive orthodoxe. Ben, elle aussi, étant enfant, elle y pense. Elle ne peut pas ne pas y penser, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, quand cette révélation lui est parvenue, comment? On ne sait pas très bien, parce que l'ange dans l'Ancien Testament, c'est un messager, n'est-ce pas? Il personnifie une révélation. Alors, comment cette révélation lui est-elle venue? On est en droit de croire que c'est l'ange Gabriel. On est en droit de croire aussi, je crois que les catholiques l'admettent maintenant, que c'est une révélation progressive, on n'en sait rien en tous les cas. Et puis ensuite, elle était très jeune. Elle a cru donc entendre quelque chose, ou elle l'a entendu. Et comme elle était juive, élevée dans l'Ancien Testament, etc., elle n'a pu que se référer à ce qu'elle savait de l'Ancien Testament, donc comparer son cas au cas de, qui s'est déjà produit dans l'Ancien Testament, de gens qui ont vu l'ange ou qui ont eu des révélations. Oui. Moi, j'ai choisi le cas de le premier des juges, là, Samuel, n'est-ce pas, qui est comment dirais-je, qui est voué au Seigneur et qui entend une voix, et le grand prêtre lui dit finalement, c'est le Seigneur, n'est-ce pas, et qu'il fasse ce que ce bon lui semble. Bon, je choisis ça. J'aurais pu aussi bien choisir un autre exemple.
Oui, j'allais dire, est-ce que ces choix successifs que vous avez faits, ces choix historiques et ces choix textes aussi de l'Évangile, vous les avez faits en fonction de vos propres croyances, de votre sensibilité à certains événements plutôt qu'à d'autres dans l'histoire?
Oui, de ma sensibilité, sûrement. Ça, sûrement. Moi, j'ai jamais entendu de voix, non, mais je me suis souvent imaginé, parce qu'étant née près de Lourdes, oui. Évidemment, j'avais très peur que la Sainte Vierge m'apparaisse.
Ah, oui.
Enfin, ça, il y a longtemps que ça m'est passé.
Oui. Mais justement, en parlant de votre enfance et de vos propres convictions, est-ce que vous avez eu dans l'enfance, à part le fait effectivement de vivre à Lourdes, je suppose que ça, autour de Lourdes, ça vous donnait un rapport particulier avec la Vierge, est-ce que vous avez eu une dévotion particulière quand vous étiez petite?
Pour la Vierge, pas spécialement. J'ai eu une dévotion pour tous les personnages du ciel, parce que j'étais un peu mystique, j'étais très portée sur les questions religieuses, très, très. Sinon, vous me demandez pourquoi j'ai écrit ce livre, pourquoi ça m'est venu à l'esprit, il est certain que c'est parce que je suis très concernée par ces problèmes, très très concernée.
Oui. Mais vous choisissez en fait une voie plus rationnelle au fond de raconter l'histoire.
Oui, bien sûr, parce que j'appartiens à mon temps et que je n'accepte pas les choses toutes faites. On me dit faut croire ça ne marche pas avec moi. Je suis obligée de faire ma chimie personnelle avec ce que j'ai appris, avec ce que je sais, aussi honnêtement que possible. Mais on me dit c'est comme ça, je demande à voir.
Oui. Mais en côtoyant Marie, comme vous l'avez fait, ça prend des années à écrire un livre comme ça. Est-ce que vous avez développé, face au personnage, est-ce que vous avez développé une affection particulière?
Pour elle?
Oui.
Maintenant, oui. Mais pas du tout comme autrefois. Je ne vois pas en elle la déesse avec des roses sur les pieds, une couronne sur la tête.
C'est bleu,
une amie. C'est une amie.
Oui.
C'est une amie. Il m'arrive de. Même dans le courant des travaux ménagers, de me dire, tiens, elle n'avait pas ça, la télévision n'existait pas, elle n'avait pas une machine à laver, elle n'avait pas ça, enfin, aussi enfantin que ça.
Ah oui.
C'est aussi enfantin.
Aussi concret que ça.
Ah, tout à fait concret. Je me suis vraiment mis dans sa peau.
Oui.
Je me suis mis complètement dans sa peau.
Oui.
Ça se voit d'ailleurs.
Ça se sent très bien. Et en plus, votre mari, à certains moments, elle est. Je ne vous dirais pas qu'elle est féministe, mais enfin, elle a un discours quand même, à certains moments, qui est très affirmé.
Ah, vous avez remarqué ça.
Oui.
Qui est le vôtre, peut-être. Complètement anodine non plus, parce qu'alors il n'y avait plus rien à dire, n'est-ce pas? L'Église a fait de Marie une femme humble et qui accepte tout. Mais naturellement, d'abord, quand les choses vous arrivent, vous savez comme moi, on est bien obligé de les accepter. Bon, elle les accepte avec beaucoup d'humilité, de sainteté, etc. Mais si elle ne pense pas, ce n'est pas la peine d'écrire un livre sur elle. Je suis persuadée qu'elle pensait, parce que je connais les femmes juives, et même de ce temps-là, il y a un culte, les femmes juives ont un ressort fantastique, sont intelligentes et j'ai vu des exemples assez étonnants en Israël.
Autrement dit, Marie, c'est aussi ces femmes que vous avez côtoyées en Israël.
Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, si Jésus avait quelque chose de Marie, eh bien, c'était un tempérament.
Dites-moi, est-ce que pour écrire un livre comme ça aussi, il faut beaucoup aimer la culture juive? Il faut avoir une sorte de fascination presque.
Oui, c'est exact. Vous me posez une question très judicieuse, c'est très exact. Moi, je ne savais rien. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un juif il y a quelques années. J'avoue que le séjour en Israël m'a beaucoup, beaucoup instruit.
Mais pourtant, vous avez été déporté, vous avez été à Ravensbrück, il y avait beaucoup
de
femmes juives.
Ah oui, mais je n'ai pas été déportée comme juive, j'ai été déportée comme assistante.
Bien sûr, mais vous les avez côtoyées.
Non, je n'ai jamais pensé, j'étais comme toutes les jeunes filles, les jeunes femmes, j'étais assez pieuse, mais je connaissais pas l'Ancien Testament, je connaissais surtout le Nouveau, naturellement. Je me contentais de ce qu'on m'avait enseigné. Je n'ai pas vraiment cherché le côté judaïque de la religion. Je ne suis pas remontée aux sources. Mais maintenant, je me dis que c'est d'une pauvreté d'enseigner la religion sans remonter aux sources. Je m'en étonne, je m'étonne que ce soit que l'Église aille au plus pressé, comme ça, n'est-ce pas, pour enseigner des choses qui n'ont pas leur caractère véritable parce qu'elles sont coupées du passé. Oui. Ça me désole, je dois dire. Oui. Alors, mais je fais comme tout le monde.
Mais c'est étonnant que vous n'ayez pas eu, en sortant des camps de concentration nazis, que vous n'ayez pas eu la curiosité de vous intéresser au phénomène de l'Holocauste.
Si, je vais vous dire, en réalité, si je m'intéresse tant aux Juifs, c'est ça, en réalité. C'est que ce problème juif qui n'est jamais résolu, pourquoi ce peuple a-t-il été, n'est-ce pas, de tout temps persécuté? Dans quelle mesure faut-il rattacher cette histoire à l'Alliance? C'est toute une histoire. Alors là, il faut aller très loin, n'est-ce pas? Parce qu'au début, vous savez que la culpabilité était collective, n'est-ce pas? Les Juifs, la religion juive enseignait que le peuple d'Israël était éprouvé par le Seigneur parce qu'il ne suivait pas les commandements, parce qu'il s'éloignait de l'unique pour adorer les idoles ou parce qu'il ne faisait pas, etc. etc. Puis peu à peu, la religion s'est épurée et on en est venu à la responsabilité individuelle. Oui. Ça, au moment du prophète Ézéchiel, en particulier Jérémie Ézéchiel, on a dit, mais enfin, c'est pas tout ça, parce que quand ils sont punis, il y a aussi les bons qui sont punis avec les mauvais, ça ne va pas, n'est-ce pas? Alors, donc, la religion a évolué. Et à l'heure actuelle, la question se pose encore, si vous voulez, puisque quand il y a des pogroms, les punitions sont collectives, n'est-ce pas? Oui. Alors, grâce à Dieu, tout ça a changé, la vie a changé.
Est-ce que vous avez dû vous dégager de votre propre éducation religieuse sur les Juifs? Le peuple qui a tué.
Ah oui,
qui a
alors tué ma mère, Jésus. Oui, enfin pour ma mère, évidemment, les Juifs avaient une responsabilité réelle dans la mort du Christ, c'était complètement stupide.
Mais
ça,
pour vos petites filles aussi.
Religieuse. Oui. Oh non, moi je n'ai pas fait tellement attention à ça, je ne m'en rappelle pas spécialement, non. À l'époque, vous savez, on enseignait les choses d'une façon tellement simpliste, grâce à Dieu, on en est revenu. Puis d'ailleurs, bien avant, les Juifs ont été éprouvés bien avant la mort du Christ. Il y a eu les grands exils de Babylone, n'est-ce pas, au moment de Nabucodonosor, là, etc., quand au VIe siècle, quand les Juifs ont été, pas tous les Juifs, hein, les notables seulement, enfin, une partie des Juifs ont été exilés à Babylone, il y a toujours eu des épreuves, c'est ça, et les Juifs eux-mêmes ne se l'expliquaient pas, c'est pourquoi cette espèce de crise religieuse dont je vous ai parlé au début, au 1er siècle, qui disait, ben, enfin, c'est insupportable, on nous a élus, nous sommes privilégiés, nous sommes amendés comme beaucoup, enfin il n'y avait pas que des pécheurs. Oui. Et comment ça se fait que nous soyons si injustement punis, n'est-ce pas?
Je voudrais qu'on revienne au livre. Vous ne décrivez pas la souffrance de Marie durant l'agonie du Christ.
Je ne peux pas.
Pourquoi?
Parce que je suis sa mère dans le livre et je ressens ça trop vivement. On ne peut pas s'apesantir sur un fils qui meurt sur la croix. Ce n'est pas possible. Vous savez, c'est très curieux, mais j'ai eu cette réaction. J'ai eu une des rares à la voix. J'ai entendu l'évangile de Saint Marc un jour au théâtre, vous savez, et quand j'ai entendu cet évangile et l'acteur qui jouait très bien avec des amplifications de voix et puis etc., et qui criait crucifie-le, je suis partie. Et alors c'était bien avant mon livre, je n'ai pas pu le supporter. Je trouve qu'il y a un manque de pudeur dans cette façon de regarder la souffrance qui est presque inhumaine. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas pu le supporter. On ne peut pas raconter, comme un journaliste, dans un livre, d'ailleurs, je connais des auteurs qui l'ont fait.
Oui, oui, oui.
Oui, mais ce n'est pas possible. Quand on est la mère, on ne peut pas. C'est pour ça que j'ai pris la chose a posteriori.
Voilà, exactement. Et je m'étais demandé pourquoi, mais j'avais un peu senti.
C'est pas possible, imaginez. Mettez-vous à la place de Marie. Vous pourriez parler de ça, raconter ça. C'est pas possible. Et alors, ce que j'ai fait, et qui était important, n'est-ce pas, que j'étais un peu embarrassée, parce que Jésus, au fond, est ressuscité, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, la souffrance de Marie s'est trouvée diminuée du fait que son fils a été glorifié, etc.
Et pourtant,
il fallait quand même l'apprendre dans ces deux jours avant la résurrection, pour expliquer quand même la qualité de sa souffrance. Il fallait le faire. Et je l'ai fait, je crois, pas mal. Je suis assez fière de ces cris du cœur, qui sont comme une espèce de magnificat à l'envers, n'est-ce pas? Parce que Marie n'était pas instruite, les femmes n'étaient pas instruites, n'est-ce pas? Mais le peu d'instruction qu'elle avait, c'est à travers la Bible qu'elle avait, les psaumes. Donc, chaque fois qu'elle avait une émotion, que ce soit la joie dans le Magnificat, on le sait, soit une peine, c'est à travers des mots qu'elle avait appris qu'elle pouvait s'exprimer. Cette espèce de poésie sublime qui est la poésie des psaumes. Donc, lorsqu'elle a perdu son fils et qu'elle a cette espèce de cri épouvantable, c'est quand même un langage châtié, c'est ce langage Epsom, parce que on a un peu dit que ma langue n'était pas la langue vulgaire, c'est vrai, mais je ne pouvais pas prendre une langue vulgaire, je ne pouvais pas, parce que ces personnes s'exprimaient avec ce qu'elles savaient, les mots qu'elles avaient appris.
Et on peut imaginer que de rendre trivial les rapports quotidiens de Marie avec son environnement.
Bon, elle ne parlait pas beaucoup, je pense.
Oui, c'est ça, oui. Non, mais ça aurait été contre...
Oui, c'est pas possible, il fallait bien... Enfin, cette femme a quand même un destin exceptionnel. Je n'ai pas voulu du tout l'abaisser en la banalisant sa vie, au contraire. Mais c'était vraiment beaucoup l'abaisser que de... Enfin, j'ai voulu au contraire l'agrandir en lui prêtant au moins, d'une part, un bon français, et d'autre part, la langue aussi proche que la langue biblique, possible que la langue biblique.
Mais est-ce que vous ne pensez pas, pour certaines personnes qui sont encore... en un sens victime de leur éducation, de la façon dont elle a parlé de Marie, que ça peut les choquer de voir Marie incarnée?
Eh bien, c'est très curieux, j'ai des réactions fantastiques. Je reçois des lettres privées, mais bouleversantes. Il y a les deux. Il y a des gens qui ont de tels préjugés qu'ils ne veulent pas en sortir et qui ont peur. En réalité, ils ont peur. Ils ont peur que ça leur fasse... Ils ont tellement besoin de cette médiatrice, tellement besoin d'aimer Marie comme ils ont appris à l'aimer, qu'ils ont un petit peu peur en abordant ce livre. Ils disent, mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai acheté ce livre, et au fond, je vous attendais à chaque ligne avec un fusil. Et puis, il y a les grands chrétiens, ce que j'appelle les grands chrétiens, c'est ceux qui ont vraiment dominé le sujet, qui savent quel est le message du christianisme, et qui, au contraire, me disent, mon Dieu, vous avez, je crois... compléter l'image que l'on pouvait se faire de Marie, c'était nécessaire, il fallait lui rendre une vie terrestre qu'elle a eue.
Oui.
Il y en a même eu quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi n'aurait pas-t-elle été tentée puisque Jésus a été tenté, n'est-ce pas? Enfin, elle a mené sa vie comme tout le monde.
Oui. Est-ce que vous n'êtes pas tentée vous-même, justement, après avoir raconté l'histoire de Marie, de réhabiliter, au fond, d'autres personnages féminins de l'histoire religieuse?
D'autres?
Oui.
Ben c'est qu'après Marie, les autres vont me paraître un peu fades, je le crains.
Mais il y a des grandes saintes tout de même.
Oui, mais...
Il y a des personnages...
Non, la sainteté en soi ne m'intéresse pas tellement. Je crois que ce que j'ai voulu, c'est plutôt à travers... Je me demande si je n'ai pas voulu justement parfaire un peu l'enseignement religieux que l'on nous a inculqué. Il me semble que c'était une pauvreté de présenter... Enfin, pauvreté, c'est bien de la prétention de ma part de dire cela. Mais pourquoi ne pas prendre ce personnage tel qu'il a été? Je crois que en réalité tout ça a été fait par des hommes. Il me semble qu'une femme, vous n'êtes pas de mon avis?
Ah oui, absolument, oui.
C'est
tout à
vraiment,
fait.
C'est inouï. Enfin, on a eu la courtoisie de me dire ce livre est un livre de femmes, un homme n'aurait pas pu l'écrire. Je m'en réjouis.
Mais oui, justement. C'est pour ça que Marie nous apparaît si différente.
La sensibilité féminine, c'était nécessaire. C'est curieux, oui. Nous sommes d'ailleurs, la religion juive est une religion masculine.
Oui. Est-ce que toutes les religions ne sont pas?
Et la religion chrétienne. A évolué à cause de Marie. Elle a fait ce personnage, elle l'a proposé, c'était nécessaire, mais elle l'a composé aussi d'une manière dogmatique et théologienne, naturellement.
Est-ce que ça a été difficile d'écrire ce livre?
Terrible.
Ah oui.
J'avais des pièges à tous les pas. Ouais. Puis je ne savais pas très bien comment aborder le sujet. C'était terrible, terriblement difficile. Ben, les choses se décantent peu à peu.
Oui.
N'est-ce pas, la vie de Marie, petite fille, comme on dit, n'est-ce pas, dans l'histoire, c'est facile à retracer. Il y a des documents, on peut très bien savoir comment vivaient les femmes à l'époque. Et puis surtout que le destin féminin n'était pas comme maintenant diversifié. Oui. On n'avait pas le choix pour devenir médecin, avocat ou vendre du chou et des carottes, n'est-ce pas? On était élevé pour se fiancer à 12 ans, se marier à 13 et faire des enfants.
Oui, justement, vous disiez tout à l'heure, il fallait être une femme peut-être pour écrire cette histoire. C'est pour ça qu'elle est différente. Il fallait être une femme aussi pour se mettre dans la peau de la mère de Judas, qui vient rendre visite. Et je voudrais aussi citer un extrait, si
oui,
vous permettez.
Oui,
s'étant inclinée avec raideur, donc c'est la mère de Judas qui vient rendre visite à Marie. Elle se redressa pour m'examiner. Je l'invitai à s'asseoir. Myriam entra opportunément et ranima le feu. La flamme jaillit. Sur le visage, face au mien, je cherchais les traits de son fils, Judas, celui à qui Jésus avait pardonné. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La venue de cette mère, sa souffrance visible, expiait le crime. J'esquissai le geste de lui tendre les bras. Elle fit mine de ne pas le voir. Je remarquai qu'elle promenait son regard autour de la pièce, comme pour s'assurer qu'elle pourrait s'enfuir, et sa méfiance me fit mal. Myriam nous laissa seuls. « Je ne suis pas de votre bord, » commença-t-elle sur le ton du défi. « Ni moi, ni personne de ma famille. J'espère que jamais aucun de mes descendants ne se liera au vôtre. » et ça continue comme ça. Il fallait être une femme aussi pour se mettre. Oui, c'est très émouvant.
Très émouvant. Ça, c'est une pure imagination, parce qu'il n'est pas dit qu'elle est rencontrée à la maison, mais ça me permettait de poser le problème de Judas, qui est un problème qui n'a jamais été résolu.
Oui. Et ça, oui, parce qu'elle elle dit que c'est parce que son fils n'était pas en accord idéologique avec
lui. On ne vend pas un homme pour 30 cycles.
Oui. Mais vous dites que c'est imaginé, mais on peut croire que la réalité psychologique de la mère de Judas, c'est ça.
Absolument, absolument. Et puis peut-être après tout qu'elle l'a rencontré, qui sait.
Oui.
Rien ne s'y oppose. Et il y a trois choses, n'est-ce pas, qui sont comme ça, le fruit de mon imagination bien précise. La mère de Judas, Barabbas, n'est-ce pas ? J'ai fait revivre Barabbas, qui était somme toute, n'était pas un brigand de grand chemin, mais un zélote, c'est-à-dire un terroriste, quoi, comme maintenant, n'est-ce pas?
Oui.
Un homme qui n'acceptait pas la domination romaine, n'est-ce pas? Il y avait un groupe de résistants qui pensaient chasser les Romains par les armes, n'est-ce pas? Donc, Barabbas. Et puis, enfin, la petite grecque que j'ai fait venir à la fin du livre, parce que là aussi, des gens me disaient Éphèse. Je dis, moi, Éphèse, je n'y crois guère. Parce qu'Éphèse, c'est le fief de Paul, c'est le fief peut-être de Jean aussi, mais certainement, pourquoi Marie serait-elle partie à Éphèse, qui était une métropole païenne, etc. Je n'y crois guère. Mais j'ai eu l'idée, comme les juifs de la diaspora venaient sacrifier au temple de Jérusalem pour Pâques, j'ai eu l'idée de faire revenir une petite grecque d'Éphèse avec Aquilas et Priscilla, qui étaient les compagnons de Paul, qui viennent en pèlerinage à Pâques à Jérusalem, tout à fait normal. Et qui, mon Dieu, jeune grec, se dit pourquoi j'aimerais connaître la mère de Jésus, cet homme dont m'a parlé Paul, elle est convertie, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà, alors j'ai imaginé ça pour faire un vague parallèle entre le monde grec converti et le monde juif converti, c'est pas du tout pareil.
Et on a aussi le sentiment que ce livre, vous ne vouliez pas le terminer.
Je ne voulais pas?
Le terminer.
Ah, si, parce que c'était un gros travail, ça je dois dire.
Oui.
C'était un tel travail que j'étais vraiment très essoufflée. Et puis, il fallait le terminer. Mais je l'ai terminé, je crois, à une époque, c'est-à-dire vers 50 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque du Concile de Jérusalem. C'est le premier concile au moment où Paul a déclaré qu'on baptisait les païens sans les circoncire. Après dire, s'il avait exigé la circoncision de tous les néophytes, il n'aurait pas eu autant de monde. Bon, et puis alors, il a converti beaucoup de femmes pour qui la circoncision aussi ne s'imposait pas, naturellement.
Oui.
J'ai donc fait terminer en 50 après Jésus-Christ. Marie devait avoir 70 ans à ce moment-là. Les choses sont réglées, les apôtres sont partis évangéliser.
Mais elle ne meurt pas.
Dans mon livre, elle ne meurt pas.
C'est symbolique quand même.
Et c'est curieux parce que la première chose qu'on vous demande, est-ce que vous la faites mourir à Éphèse? Je ne la fais pas mourir puisqu'elle parle.
Bien sûr. Qu'est-ce que ça a changé à votre foi, vous?
Ah, quelle question personnelle! Eh bien, ça m'a un peu transformée, c'est vrai. D'ailleurs, vous savez, ma foi, elle a eu des hauts et des bas tout au long de ma vie. Alors, c'est très difficile si on me posait la question si vous êtes croyante. Je crois certainement à des choses. J'y crois, puis j'y crois plus, puis j'y crois encore. Enfin, je lutte beaucoup. Je lutte beaucoup. Je cherche la vérité. La vérité, on ne me l'impose pas. Il faut qu'elle me vienne. Et après tout, si Dieu existe, pourquoi ne m'insufflerait-il pas sa vérité? Il n'y a pas de doute.
Il vous a peut-être inspiré.
Voilà, il me l'a peut-être inspiré. Par moments, je me disais, je suis peut-être inspirée pour écrire ce livre. Alors, mon mari me faisait taire, il me disait, mais tais-toi, tu dis des bêtises, etc. J'ai eu l'impression, parfois, parce qu'il y a des moments où, hésitant, ne sachant pas trop si c'était ce qu'il fallait dire pour un sujet particulier, une circonstance particulière, j'ai inventé et par la suite, je me suis aperçue que j'étais tombée juste. Mais ça arrive, paraît-il, à tous les gens qui écrivent, parce qu'on est tellement possédé par son sujet que finalement, on a une espèce d'intuition.
Que d'autres appellent inspiration.
Voilà, ça fait l'inspiration.
Je vous remercie de cette entretien.